Bonsoir, vous êtes bien à la courte échelle. Donc, nous sommes avec Aliane ce soir au studio et Bibi qui va vous présenter la courte échelle de ce soir. Donc,
bonsoir.
Bonsoir l'équipe.
On n'est que deux, tranquille dans le studio.
Voilà, peinard, donc comme tous les dimanches. Vous pouvez écrire et témoigner à la courte échelle par courrier. Donc, je vous rappelle l'adresse, c'est la courte échelle Radio Galère, Friche, Label de Mai, 12 rue François Simon, 13003 Marseille. Et c'est à la courte échelle et également. Vous pouvez réagir aussi, le fixe fonctionne, donc c'est le 04 91 08 28 10 pour ceux qui veulent réagir en direct au studio. Vous pouvez appeler ce numéro et également vous pouvez écrire par mail à la-courte-échelle@resup.net. Voilà. Et ce soir, on va faire une info qu'on a appris par les familles de Arles.
Ouais, on commence par ça et oui, vas-y.
Et après, on fait la brève qu'on va finir.
On commence par l'info de Arles.
Ah, voilà. Donc, des familles qui viennent au niveau de Arles, de la centrale maison de Arles, actuellement, ils ont des fouilles répétitives le soir, plusieurs surveillants pénitentiaires après des oxys, des repas, une fois que les écrous sont fermés, normalement, les écrous sont fermés le soir, y a plusieurs fouilles répétitives, donc il y en a qui ont 3, 4, 5 fouilles par jour. Je trouve que c'est abusé quand même. Donc, logiquement, c'est une fois par semaine, logiquement, la loi. Mais bon, voilà, on voulait en tirer aussi l'information de dire qu'il y a encore des fouilles de cellules abusives au niveau des maisons d'arrêt et donc la centrale de Arles qui nous a informé de ceci.
C'est vrai que les fous, ils peuvent les utiliser quand tu veux vraiment trouver des trucs, des fois aussi pour rendre fou, pour démoraliser.
C'est plutôt pour démoraliser, et surtout, surtout quand c'est le soir, c'est vraiment pour vraiment pousser à bout. Parce que quand ils sont à voir, comme on dit, à l'aise dans leur cellule, évidemment que quand ils sont tranquilles et que le moment qu'ils peuvent se reposer tranquille, eh ben on va les déranger pour des fouilles de cellules très tardivement le soir. Je trouve ça quand même un peu abusé.
Du coup, ce soir, on va passer un petit... après cette brève, on va passer un petit audio... peut-être qu'on peut dire force à toutes les personnes de Arles.
De Arles, déjà, voilà, quand je dis coucou à Karim, mon homme, aux petits canetons également qui sont à Arles et à d'autres personnes qui sont de Arles également, et aux filles des Baumettes et tous ceux qui sont emprisonnés.
On vous souhaite bon courage.
On vous souhaite force et courage, surtout avec les nouvelles lois. Et on va finir ce post-it.
Ouais, donc je disais, ce soir, on va dans la continuité de ce qui a été fait fin août. Il y a plusieurs émissions qui parlent de la répression antiterroriste qui vise les terroristes et d'autres personnes qui sont incluses dans cette définition qui s'élargit de plus en plus. Donc il y a plusieurs émissions qui ont été dédiées à ça fin août et qui parlaient de comment ça avait évolué selon les années. Là, on va passer un dernier podcast qui parle de ça. On va pas le mettre en entier. Je pense qu'on va mettre la moitié. Peut-être,
la moitié,
peut-être qu'on va revenir à la fin, faire deux, trois brèves et puis laisser l'antenne aux suivantes qui, il me semble, sont sur le fil. Et du coup, on vous recommande leur émission. Ne quittez pas après nous. Du coup, voilà, on va lancer ce podcast. On se retrouve juste après, normalement, à part si finalement on change d'avis, mais sans doute.
Voilà.
À l'heure.
Bonne écoute.
Bonne écoute.
Alors, ce soir, on continue encore le cycle sur les 10 ans de l'antiterrorisme avec Joël, qui est là avec nous.
Salut, salut.
Les précédentes émissions, on avait parlé jusqu'aux années 2021. Est-ce que tu veux nous faire un petit résumé de le dernier morceau qu'on a fait ensemble?
Ouais, le premier cycle, on avait fait les années 2015-2016 sur les réactions immédiates aux attentats et ce genre de mesures. Les trois années suivantes, c'était plus des mises en place législatives et qui s'élargissaient, notamment contre les étrangers. On a vu la troisième étape 2020-2021 où il y a eu l'étape Covid, mais qui a réutilisé des instruments soi-disant antiterroristes en fait, pour l'ensemble de la société, notamment l'état d'urgence. Et 2021 avec une année vraiment marquante sur des lois en fait, vraiment pour les keufs de surveillance et de pouvoir administratif pour les préfectures assez considérable, notamment la loi séparatisme et la loi sécurité globale juste avant sont particulièrement graves en termes de précédents législatifs. Voilà. Et aujourd'hui, on va rentrer un peu dans le dernier morceau 2022-2024. On va un peu rapidement passer sur ce qui est en train de se passer en 2025, mais peut-être que ce sera l'occasion de notre blabla plus tard. Déjà 2022 à 2024, il y a trois grosses années à discuter.
Et pour commencer, du coup, avec l'année 2022, on avait envie de revenir sur la campagne présidentielle où la question antiterroriste et la question sécuritaire, notamment par exemple autour des centres de rétention, ces questions-là ont été prioritaires dans les campagnes de droite.
Ouais, de droite et même en fait quasiment tous les partis étaient là-dedans. Par exemple, le grand moment marquant de cette campagne, alors c'est même plus les manifs de policiers pour essayer d'interpeller les politiciens. Là, c'est carrément le grand oral policier. C'est-à-dire en février, Alliance, le syndicat d'extrême droite de Keuf, convoque tous les candidats à la présidentielle, sauf quelques-uns à gauche, ou peut-être que LFI, je ne me souviens plus. En tout cas, Mélenchon n'était pas invité. Écologie Les Verts, je ne me souviens plus, mais par exemple, Macron était invité. Enfin, voilà. Donc, c'est pas que disons, la droite au sens habituel médiatique, quoi. Ils sont tous convoqués par Alliance pour médiatiquement expliquer qu'est-ce qu'ils vont faire pour les keufs, gentiment pour les keufs, dans les années à venir, s'ils sont élus. Voilà. Grand oral policier, ça c'est complètement nouveau dans les campagnes présidentielles en France. Mais par contre, il y a des coups de pression pendant la campagne présidentielle qui viennent de la part des prisons. Il y en a deux, en fait, qui sont un peu inattendus, disons, pour l'État. Le premier, c'est en mars, il y a Yvan Colonne qui est tué à la maison centrale d'Arles par un co-détenu qui était plus ou moins étiqueté terroriste par l'État. Et ça va créer des très grosses révoltes en Corse, parce que Yvan Colonne, donc, c'est un des leaders majeurs de la lutte indépendantiste corse qui est en prison depuis le début des années 2000. Et donc il y a d'énormes révoltes au nom de État français assassin dans la rue et notamment contre des institutions spécifiques de l'État qui sont répressives, c'est-à-dire contre des commissariats, contre des tribunaux, ce genre de choses. Et il y a même certains discours, alors on va pas se mentir, ils étaient un peu minoritaires, mais qui commencent à contester l'existence du répertoire DPS, les détenus particulièrement signalés. Ce répertoire va être un peu remis en cause à ce moment-là. Ce que va faire l'État, c'est qu'il va accepter de négocier avec les nationalistes corses. Mais par contre, après la présidentielle, il va surtout renforcer, suite à cet événement, il va surtout renforcer les CAIR, les fameux donc quartiers d'évaluation à la radicalisation. Bien sûr, c'est après la présidentielle qu'il va le faire. Il ne va pas le prendre tout de suite comme mesure. Parce que comme le co-détenu qui a tué Yvan Colonne avait failli y être placé, en gros, il renforce les CAIR. Et ce qui, de fait, il y a plus de gens qui vont s'y retrouver. Et donc, en fait, cette personne s'y serait retrouvée. Et du coup, soi-disant, c'est pour ça qu'il aurait pu ne pas tuer Yvan Colonne. Bon, bref, c'est ça la logique de l'État. C'est d'élargir, en fait, la répression contre les gens en prison. Autre événement qui va se passer en prison, c'est Libreflot. Donc, c'est un des sept inculpés pour les arrestations du 8 décembre 2020 dont on avait parlé dans l'émission précédente, donc une personne catégorisée d'ultra-gauche par la préfecture et qui est poursuivie pour association de malfaiteurs terroristes. Alors pourquoi? C'est parce que elle s'est battue contre des gens de Daesh au Kurdistan syrien, c'est pour ça qu'elle est poursuivie pour ça. Et donc, elle s'est battue contre des terroristes et poursuivie pour terrorisme. Bon, bref, voilà, c'est comme ça que réfléchit l'État. Mais donc, Libreflow, qui est en prison, en isolement depuis l'arrestation en décembre 2020, va entamer une grève de la faim pendant la campagne présidentielle. Et en fait, il fait une grève de la faim très vénère pendant 5 semaines sans se nourrir. Et il va être donc déplacé à l'hôpital prison de Fresnes. Ce qui arrive quand les gens ne s'alimentent plus, il va être alimenté de force et tout ça. Et il va obtenir en fait sa libération pour raison médicale. Ça, c'est une, comment dire, c'est une mesure qui potentiellement n'aurait pas eu lieu dans un contexte en dehors d'une campagne présidentielle. Mais là, ce n'était pas possible en fait, qu'il y ait 2 morts en prison un peu médiatiques, l'un du côté disons, indépendantiste basque et l'autre côté extrême gauche. Ce n'était pas possible pour. Voilà. Mais donc ces 2 personnes, disons, étiquetées terroristes par l'État, vont avoir un impact sur la campagne présidentielle. Ça va être discuté, ces questions-là. Ça ne va pas empêcher Macron d'être élu, hein, le 24 avril. 2 jours après être élu, il va direct prendre des mesures assez compliquées, notamment celle du recours à la reconnaissance faciale dans le TAJ. Alors le TAJ, c'est le traitement des antécédents judiciaires. C'est un des fichiers qui existe en France les plus larges qui soient. Il y a 20 millions de personnes sur le TAJ en France. Dès qu'on a affaire à la justice, que ce soit en tant que victime, en tant que plaignant, en tant que juste main courante, ou que ce soit en tant que personne accusée, même si on est relaxé, on est dans le TAJ, on est fiché dans le TAJ. Il y a 20 millions de personnes qui sont fichées dans le TAJ. Ben, la reconnaissance faciale est autorisée pour le TAJ à partir du surlendemain de l'élection de Macron à la présidentielle en 2022. C'est, je sais pas si c'est sa première mesure, mais c'est quasiment sa première en tout cas de réélection. Alors ça veut pas dire que il y a des photos de tout le monde dans l'otage, mais en tout cas dès qu'il y a une photo dans l'otage, maintenant la reconnaissance faciale est possible. Voilà. Et notamment ça veut dire que dès qu'ils prendront des photos, les keufs à l'avenir, eh ben si vous avez affaire aux keufs, c'est que vous avez affaire à la justice. Il y aura un traitement des antécédents judiciaires, vous aurez la reconnaissance faciale. Voilà pour l'élection. Alors après, il y a évidemment les législatives qui suivent, où il y a un point marquant, je pense qu'on peut quand même souligner, c'est que le Rassemblement national et l'extrême droite progressent très fortement. Le Rassemblement national obtient 90 sièges de députés. Alors ils restent minoritaires, ils n'ont pas un impact majeur sur la vie politique. Mais en fait, dans les idées, elles progressent et on voit qu'il y a quand même 90, c'est 82 de plus que la législature précédente. Ils étaient 8 seulement, entre guillemets, alors que en fait, c'était déjà inédit la fois précédente, en 2017. Voilà, en 2022, on a 90, c'est-à-dire 82 députés de plus qui siègent RN. Donc, une progression de l'extrême droite vraiment qui explose. Donc, c'est pas du tout une victoire de Macron, la réélection de Macron, en fait, c'est. Un soi-disant barrage à l'extrême droite qui va du tout, de toute façon, pas respecter, comme on le verra tout de suite après.
Ouais. Bah, du coup, 2022, ça a été aussi marqué par la fin du procès des attentats au Bataclan, qui était donc un événement exceptionnel qui justifierait une justice d'exception qui va apparaître. Ouais.
C'est ça. C'est un procès qui, déjà, en fait, dure 10 mois. C'est vraiment inédit, un procès aussi long. Donc il prend fin en juin 2022, mais il avait commencé en fait l'année précédente, en 2021. Enfin, c'est vraiment un procès fleuve. On peut évoquer le fait qu'il y a plus de 2200 parties civiles lors de ce procès. Alors c'est pas un problème en soi, enfin, en tout cas c'est quelque chose dont il n'est pas l'ordre de discuter aujourd'hui. Hein, les gens qui ont été victimes d'attentats terroristes ont décidé d'être partie civile, mais en fait dans les parties civiles déjà il y a des personnes morales aussi, c'est-à-dire des associations, des institutions. Et moi ce que je voulais évoquer, c'est qu'en fait quand il y a autant de parties civiles, il y a des cabinets de baveux qui vont vraiment s'enrichir. C'est-à-dire qu'en fait il y a 3 cabinets de baveux qui vont gagner 2 à 3 millions d'euros chacun, juste grâce à l'aide juridictionnelle. Voilà, c'est ce genre de en fait, procès comment dire, exceptionnel, va créer des moyens exceptionnels. Et ce qui va faire que, par exemple, des baveux vont vraiment se remplir les poches. 2 à 3 millions d'euros pour un cabinet, c'est quand même beaucoup. Ce procès aussi, il est intégralement filmé. Voilà, ça, ça passe aussi tranquillement comme une lettre à la poste, soi-disant pour les archives exceptionnelles que ça doit faire. C'est aussi qu'en fait, bon, bah, on commence à émettre l'idée qu'un procès filmé, c'est tranquille. Donc les accusés sont filmés, leur gueule va donc être à vie accessible dans des fichiers apparemment archivables, donc accessibles pour pas mal de gens. C'est aussi le moment, donc fameux procès où le principal accusé c'est Salah Abdeslam, parce que c'est donc un des seuls à avoir participé aux attentats du Bataclan directement, avoir survécu et donc être jugé. Salah Abdeslam, sa première intervention lors du procès, c'est, je cite, « Ça fait 6 ans qu'on me traite comme un chien ». Alors ce procès ne va pas du tout enclencher une discussion sur la question de l'existence de la torture en France, dans les prisons. L'idée n'est pas du tout de défendre Salah Abdeslam de mon côté, hein, c'est évidemment pas le cas. Mais par contre, le fait qu'il existe des tortures en prison en France, notamment spécialement contre les gens qu'on étiquette comme des monstres terroristes, c'est un peu tout l'enjeu en fait de notre discussion depuis plusieurs émissions, ne fait l'objet d'aucun débat public lors de ce procès, ni médiatique, ni politique, ni rien du tout. Voilà, Salah Abdeslam dit ça. En fait, c'est presque sous-entendu. Il méritait bien ses tortures, ce chien. C'est ça, en fait, qui est en train de se passer dans ce procès. Un autre truc un peu quand même assez contestable qui va avoir lieu pendant ce procès, c'est que les procureurs et les juges, mais notamment les procureurs, vont être systématiquement applaudis par le public, par la salle. Et ça, ça n'a pas créé de problème particulier de la part de grand monde, à part évidemment la défense et les accusés, la défense des accusés et les accusés qui vont contester ça, mais voilà, ce sera juste du discours, mais en fait voilà, ça met un coup de, comment dire, un rapport de force dans le tribunal qui est complètement défavorable aux accusés. Et ce qui amène donc aux toutes premières condamnations à la perpétuité incompressible pour des faits de terrorisme dans l'histoire en France. Voilà. Donc Salah Abdeslam en particulier va être condamné à la perpétuité incompressible, c'est-à-dire en fait la perpétuité réelle, pour le dire autrement, la condamnation à mourir en prison. Voilà. La peine de mort, soi-disant, a été abolie, hein. On sait très bien que dans les faits il y a plein de gens qui meurent en prison, mais voilà, là c'est complètement assumé sur le plan légal, législatif. Voilà. Une personne peut être condamnée à mourir en prison. C'est le cas de Salah Abdeslam. Il y a 5 autres accusés qui sont condamnés à ça, mais ces 5 autres accusés sont probablement déjà morts. Ils sont en tout cas absents lors du procès. Ils sont jugés par contumace. Ils sont probablement déjà morts en Syrie par la France ou les États-Unis qui les ont bombardés, quoi. Mais en tout cas, il y a eu 6 condamnations à la perpétuité incompressible pour les faits de terrorisme lors de ce procès. Voilà à quoi aboutit ce procès exceptionnel, donc justice d'exception. Voilà. Et en fait, ça ouvre aussi des portes à des condamnations qui n'avaient pas eu lieu avant. Voilà. Et moi, je pense que là, pour le coup, là, je dis mon avis, je pense que par contre, c'est complètement contestable de rétablir en fait légalement la peine de mort en France tranquillement. Voilà. Ça, c'est... Mais bon, comme c'est le pire monstre de la Terre, l'étiqueté terroriste plus, ben. Voilà, ça passe tranquillement comme une lettre à la poste. Il n'y a pas grand monde qui a contesté cette décision.
Aussi, pendant l'été 2022, il y a eu 2 mesures européennes marquantes dont tu vas nous parler, Joël.
Ouais. Donc suite à ce procès, il y a eu aussi deux autres enjeux sur la question terroriste à l'été. Effectivement, elles sont européennes. Alors, la première chose, c'est une loi... qui a passé incognito en France parce qu'en fait c'est juste l'adaptation à un cadre européen. Et souvent quand en fait l'Europe elle décide un truc, y a une loi qui va... Bon, en fait il est obligatoire pour l'État de s'adapter dans sa législation, et souvent du coup on dit ouais mais c'est l'Europe, du coup ça passe tranquille pendant l'été, pendant que tout le monde est en vacances, tout le monde s'en tape. Et en fait cette loi elle permet des procédures de retrait dans l'heure, donc en moins d'une heure, de contenu jugé terroriste sur Internet. Alors, des contenus jugés terroristes par l'État. C'est-à-dire, on parle de terrorisme djihadiste, mais ça peut être aussi... vous êtes pro-palestinien, potentiellement, ça pourrait être jugé terroriste. on ne sait pas s'il y a un gouvernement d'extrême droite demain, bah, qu'est-ce qui sera jugé terroriste. Voilà. En fait, votre contenu sur Internet sera supprimé dans l'heure. Évidemment, aucune contestation possible de cette décision. Voilà, ça c'est une mesure européenne tranquillement. Et après, il y a une autre mesure européenne, alors là, qui va plutôt contraindre la France, parce que la France, elle n'avait pas envie du tout de ça. La Cour européenne des droits de l'homme, elle va condamner la France dans son inaction dans le rapatriement des ressortissants français en Syrie. En fait, en Syrie, il y a des gens qui sont enfermés, notamment bah, par les Kurdes, depuis 2015, même 2014. Donc des gens de l'État islamique, mais aussi leurs familles, aussi leurs enfants, qui sont enfermés. En fait, c'est une demande de la part des États-Unis, de la France et des autres pays occidentaux de ne surtout pas rapatrier ces gens chez eux. Pourtant, ce sont des ressortissants de ces pays-là. Et en fait, ce que vont faire la France, les États-Unis, tout ça, c'est qu'ils vont donner quelques moyens économiques, notamment l'US Aid, aux Kurdes pour en fait mettre en place ces camps d'enfermement complètement illégaux sur le plan du droit international. Donc la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France. Alors on est en été 2022, hein, elle a mis du temps à se réveiller, la Cour européenne des droits de l'homme, mais donc 7 ans après 2015, et même la France entre en guerre contre l'État islamique en 2014, donc 8 ans après, la France se voit contrainte par le droit européen à rapatrier ses ressortissants en France. Ce qui est la base du droit international. Mais bon, quand c'est les pays occidentaux, le droit international, tranquille, ça peut passer après. Et donc à partir de cette décision, c'est pour ça que j'en parle, va y avoir des rapatriements effectifs, mais au compte-gouttes, c'est-à-dire pas du tout massif, pas du tout collectif, après des batailles juridiques assez vénères, de la part d'avocats et tout ça, pour rapatrier des gens, et ça va être uniquement des femmes et des enfants. Pour les hommes, ils restent en prison là-bas, enfin dans des camps. Et c'est pas toutes les femmes et c'est pas tous les enfants. On reviendra de toute façon sur les chiffres pour l'année 2023, puisqu'ils vont s'arrêter en 2023.
Voilà. Et pour terminer l'année 2022, ça va être avec la mise en scène médiatique et politique du terrorisme d'extrême gauche pour cette fin d'année.
Et oui, donc à nouveau, là, ils vont reprendre un peu, mais là, ça va être très médiatique, l'idée que l'extrême gauche serait terroriste. Donc il y a des nouvelles notions qui commencent à apparaître dans le débat et tout ça. Alors c'est en lien notamment avec la fameuse condamnation... la fameuse inculpation pour association de malfaiteurs terroristes des 7 inculpés du 8 décembre 2020, là, dont je parlais, notamment Libreflow. Donc ces 7 personnes vont être condamnées pour association de malfaiteurs terroristes. Elles vont être condamnées alors qu'il n'y a aucun fait tangible comme quoi elles étaient en train de préparer quoi que ce soit. Mais bon, elles sont condamnées pour association de malfaiteurs terroristes le 22 décembre et le procès a duré de novembre à décembre. Donc c'était dans l'ère médiatique de la fin d'année 2022. Cette question-là aussi. Mais ce n'est pas le seul aspect qui fait que le gouvernement, les politiques, les médias vont s'attaquer à l'extrême gauche sur le plan, disons, de l'argument, le prétexte antiterroriste. Il y a notre fameux Darmanin, ministre de l'Intérieur, encore une fois, qui va accuser notamment les manifestants contre les méga-bassines d'éco-terroristes. Voilà. Ça, c'est une notion qui apparaît dans le jargon médiatique à ce moment-là. C'est Darmanin qui l'utilise tranquillement, ça passe. Franchement, il n'y a pas grand monde qui le conteste, à part un peu la gauche, tranquille. Voilà. Mais c'est un mot qui, aujourd'hui, on l'entend très régulièrement sur les chaînes de télé, radio et tout ça. Et ben, c'est en fait après les manifestations à Sainte-Soline contre une méga-bassine, donc une rétention d'eau à l'échelle vraiment industrielle pour les champs de maïs gigantesques d'industriels de l'agrobusiness, donc prendre l'eau plutôt que pour eux plutôt que pour tout le monde. Donc il y a des gens qui sont opposés à ces projets-là et ils sont qualifiés d'éco-terroristes par Darmanin. Et autrement que dans le discours, il y a aussi les enquêteurs antiterroristes, la SDAT, donc la sous-direction antiterroriste dans les renseignements, qui va enquêter contre des militants qui se sont attaqués à l'usine Lafarge. Donc Lafarge, pour rappel, c'est une entreprise de BTP gigantesque qui, d'ailleurs, n'est pas totalement propre elle non plus sur la question du terrorisme, puisqu'elle a complètement travaillé avec l'État islamique pendant des années, alors que la France était en guerre contre elle. Enfin, bon, bref, peu importe. En décembre 2022, il y a des militants qui se sont attaqués à l'usine Lafarge, c'est-à-dire qu'ils ont juste désarmé la production. Voilà. Ils n'ont pas cassé grand-chose. Et voilà, ils sont poursuivis, enfin, ils sont les moyens d'enquête antiterroriste qui sont mis contre eux en décembre 2022, au même mois où il y a des attaques d'extrême droite qui tuent des gens dans la rue, mais où le parquet antiterroriste n'est absolument pas saisi. Donc voilà, le deux poids, deux mesures est assez explicite. Donc en l'occurrence, là, je pense par exemple à William Mallet, un raciste d'extrême droite qui va tirer sur 7 Kurdes à Paris. La veille de Noël, le 23 décembre, et il y en a 3 qui vont mourir de ces tirs par balle. Et donc William Mallet, il leur reprochait d'avoir fait, il reprochait aux Kurdes en général, donc déjà en soi c'est raciste, mettre tous les Kurdes dans le même sac, il reprochait aux Kurdes d'avoir fait prisonnier les gens de Daesh plutôt que les avoir tués. Alors que c'est exactement ce que demande la France, enfin peu importe. Et donc Darmanin dit que cette attaque n'a rien à voir avec une attaque terroriste. Voilà, fermez boutique. C'est la fin de l'année, joyeux Noël. L'extrême droite progresse, elle tue et ça ne pose problème à personne. Alors, le mec va être poursuivi pour assassinat, évidemment, et on ne peut pas nier le truc. Mais par contre, voilà, l'argument antiterroriste, comme on voit, comme il n'y a plus vraiment d'attentats terroristes djihadistes, il commence à être utilisé aussi contre l'extrême gauche pour continuer à utiliser un peu ce prétexte. Mais voilà, c'est jamais contre l'extrême droite que ça va être utilisé. Non pas que je sois pour qu'on utilise l'argument antiterroriste pour l'extrême droite aussi, mais plutôt le deux poids deux mesures, ça abonde quoi.
Ok, ben on va maintenant passer à l'année 2023. Cette année va commencer par la LOPMI, qui est la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Tu veux nous en dire plus ?
Ouais. Donc c'est une loi un peu... le nom, on le voit, il est jargonnant. C'est une loi un peu bureaucratique, administrative pour comment s'organise le ministère de l'Intérieur. Sauf qu'en fait, la manière dont s'organise un ministère qui gère juste des gens qui ont des armes et qui tuent des gens, ça a des implications en fait un peu importantes. Notamment, des moyens considérables vont être alloués pour la cybersécurité et pour la police. Donc la police va avoir des moyens pour la cybersécurité vraiment considérables après cette loi. Les dépôts de plaintes en ligne vont être rendus très simples. Donc en gros, ça va faciliter à pousser les gens à Poucave et à porter plainte par le biais des procédures judiciaires et policières beaucoup plus facilement. Et cette loi aussi, c'est pas uniquement en fait juste des questions de thunes ou des trucs comme ça, ça permet aussi de débloquer des constructions de CRA. Tout simplement, ils prévoient de créer le double de CRA par rapport à 2017. Voilà, ça c'est prévu dans la loi LOPMI, donc avec un plan de construction de 3000 nouvelles places de prison pour sans-papiers. C'est ça, les CRA, c'est centre de rétention administratif. Voilà pour cette LOPMI.
Du coup, en 2023... C'est aussi une année où la plupart des gens commencent à comprendre qu'il y a une déshumanisation de toutes les personnes étrangères, que le prétexte de l'antiterrorisme devient moins nécessaire et qu'il y a un racisme assumé public qui fonctionne. 2023, on dirait un peu que c'est un point de bascule sur ce point de vue-là.
Ouais, grave, c'est... C'est un peu un moment où en fait notre blabla sur l'antiterrorisme commence à devenir compliqué parce qu'en fait les mesures préfectorales, les jurisprudences, ce qui se passe dans les prisons, etc., vont de plus en plus assumer leur caractère raciste contre les étrangers ou contre les musulmans ou ce genre de choses. Ce qui fait que le prétexte antiterroriste parfois il est dit du bout des lèvres, mais en fait c'est juste pour la forme quoi. Et en fait on commence à arriver dans un peu une situation où les pratiques d'extrême droite assument publiquement en fait leur leur but premier qui est de s'attaquer aux pauvres et aux personnes étrangères quoi. Et pour donner quelques exemples, le fichage européen de Schengen, donc le SIS, le SIS, qui existe déjà, hein, c'est pas en 2023 qu'il va être créé, non, il existe depuis très longtemps, il traque depuis très longtemps les personnes migrantes dans toute l'Europe. Ce fichage européen va intégrer désormais les photos et les empreintes génétiques à partir de 2023. Et on voit à quel point en fait c'est complètement assumé le fichage total des personnes migrantes en Europe, la forteresse Schengen qui tue en fait des gens en mer et qui surveille et contrôle les populations étrangères une fois qu'elles sont arrivées en Europe, si elles y arrivent. Un autre exemple de ce, un peu ce point de bascule contre les étrangers, c'est l'opération Wambushu. Qui a lieu à Mayotte à partir d'avril 2023 et où, donc, qui est mise en scène par Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui est de s'attaquer tout simplement aux personnes étrangères à Mayotte. Voilà. Vraiment, il n'y a même pas de pincettes qui sont prises dans le discours, alors dans la pratique encore moins, parce qu'il s'agit de en fait, détruire les maisons des gens et de les expulser de force. Voilà, il n'y a plus aucune pincette qui commence à être prise et on voit en fait un peu ce point de bascule où même le prétexte antiterroriste, il n'y avait plus vraiment lieu d'être quoi, parfois. Et on a un peu le même processus dans les quartiers, la même année dans les quartiers en France. Alors on voit très bien comment a été gérée la question de la mort de Nahel Merzouk. Donc pour rappel, Nahel Merzouk va être tué par la police avec vidéo à l'appui. C'est surtout ça qui va créer un point de bascule. Il va être tué par la police le 27 juin 2023 et ça va créer un mouvement social d'ampleur dont je pense quasiment tout le monde a entendu parler parmi les personnes qui écoutent à la radio. Violence d'ampleur, ce mouvement social d'ampleur va créer une violence justement d'ampleur dans la répression. Et ça va être complètement assumé, là, à nouveau, le côté, comment dire, de déshumanisation, qui n'a même plus besoin d'utiliser l'étiquette du monstre, par exemple, l'étiquette du monstre antiterroriste, enfin, du monstre terroriste, pour s'attaquer aux gens. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit juste de dire ce sont des monstres parce qu'ils sont étrangers, ou de quartier, ou racisés, ou ce genre de choses. Et ben là, je vais citer Alliance, le syndicat de Keuf dont je parlais. Ils ont fait un tract avec l'UNSA Police, donc l'autre syndicat... le deuxième syndicat de police si vous voulez après Alliance, donc les deux ensemble c'est quasiment tous les keufs. Ils ont écrit un tract pendant le mouvement social suite à la mort de Nahel qui est assez explicite de ce point de vue là dans un peu ce processus qu'on essaye de décrire. Alors désolé, je vais citer des keufs d'extrême droite, donc c'est vraiment violent, voilà, désolé pour tout de suite, mais je pense que ça dit quelque chose. Donc je cite, face à ces hordes sauvages, demander la calme ne suffit plus, il faut l'imposer. L'heure n'est pas à l'action syndicale, mais au combat contre ces nuisibles. Aujourd'hui, les policiers sont au combat car nous sommes en guerre. Voilà. Donc les mots sont explicites, ce sont des animaux. En tout cas, une déshumanisation totale. On a les mots de nuisibles, de hordes sauvages, qui sont complètement assumés de la part de fonctionnaires de l'État pour mobiliser, disons, une violence, une répression extrêmement forte. Il n'y a plus besoin de l'argument. Là, la menace antiterroriste n'est même plus mobilisée. Il n'y a même plus besoin de la mobiliser pour justifier, en tout cas de moins en moins, pour justifier la répression. Alors, à contrario, il y a quand même cet argument qui continue. Oui, j'ai un peu nuancé cette idée, mais on voit que ça avance. Mais il y a encore l'argument antiterroriste qui va être utilisé pour... qui sert de prétexte encore pour réprimer des choses quoi. Et ça en particulier Macron et tout son gouvernement au printemps 2023, ils ne peuvent plus se déplacer sans avoir en fait des gens qui font des casserolades, c'est-à-dire qu'en fait ils ne peuvent plus parler parce que les gens tapent sur des casseroles en permanence et ça ils trouvent ça insupportable, ils se font huer et voilà. Et donc tout simplement, ils vont prétendre, sous prétexte de risque d'attentat, que en fait, bah, ça va être interdit de faire des rassemblements, parce qu'en fait, les gens maintenant qui se rassemblent, c'est pas pour voir et leur dire ouais, merci, tout ça, vous êtes gentils. Non, c'est en fait pour dire votre gouvernement, c'est vraiment de la merde ce que vous faites. Les retraites, en fait, que vous voulez à 64 ans, personne n'en veut, ce genre de choses. Et du coup, bah, ils vont mettre en place des mesures soi-disant antiterroristes, mais pour interdire les manifestations aux abords des déplacements des gens du gouvernement, notamment Macron. Et ça, c'est notamment le 20 avril, ça va faire un peu un précédent sur le plan des décrets préfectoraux. Le 20 avril 2023, il y a Macron qui va se déplacer dans l'Hérault, près de Montpellier, donc à Ganges précisément, et il y aura un décret anti-casserole qui va être mis en place à ce moment-là, sous prétexte antiterroriste. C'est vraiment explicitement ça l'argument qui va être utilisé. Mais il y a d'autres arguments antiterroristes qui vont être utilisés pour d'autres trucs à ce moment-là, quoi.
Oui, oui, bah, comme tu dis, tu viens de mettre de la nuance que le prétexte antiterroriste, il peut être quand même utilisé. Et ça a été le cas, du coup, pour une loi de mai 2023 pour anticiper les Jeux Olympiques. Du coup, un événement international qui...
Hop, là, on interrompt, parce qu'on mettra la suite une prochaine fois. Du coup, tu vas peut-être activer ton micro à toi aussi. Hop là. Ah oui, c'est moi, il est de mon côté. On arrive, c'est bon.
Voilà, c'est bon.
Donc on est de retour. Du coup, bah, on a mis la moitié de
la brève.
De ce podcast sur l'antiterro et que vous venez de l'écouter, donc vous voyez de quoi je parle. Fait par les deux potes. Merci beaucoup à eux et à elle. Et on vous mettra la suite une prochaine fois. On s'est arrêté à l'usage des notions d'antiterro par l'État aux alentours des JO. On s'en souvient, on est à 31-39 sur l'enregistrement. On le notera et on vous mettra la suite. Nous, du coup, on est de retour avec des trucs un tout petit peu plus récents. Parce qu'on trouvait que c'était intéressant de
le dire.
De l'évoquer. Parce que vous l'aurez peut-être pas manqué, mais cette semaine a été un petit peu mouvementée, parce qu'en ce moment il y a un mouvement social
très mouvementé,
un mouvement social qui s'appelle Bloc on tout, qui a commencé le 10 septembre et qui n'est pas encore fini et qui va peut-être réussir à faire la révolution, Inch'Allah. On espère.
On
va voir.
On y était de toute façon, nous.
On y est passé, on y était. Et il s'est passé plein de choses différentes, beaucoup d'énergie et beaucoup de répression. Du coup, bah, par exemple, il y a eu énormément de garde à vue. Donc, le garde à vue a été un outil de répression contre ce mouvement social. Là, devant les yeux, j'ai deux titres de BFM qui dit 10 septembre, 540 interpellations. Et une autre de Figaro qui dit 175 interpellations. Et ils datent tous les deux d'il y a trois jours. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a un qui est un peu plus tard que l'autre. Mais bon, voilà, ça donne une idée. Du nombre de garde à vue qui est quand même assez conséquent, tout de même. Du coup, il y avait énormément de flics sur place, donc la répression a été policière et judiciaire. À Marseille, on s'en est pas si mal sorti d'un point de vue judiciaire, en tout cas, puisque les personnes sont ressorties. Il y en a plusieurs qui sont sortis sans rien, qui étaient en garde à vue et qui ont fini par être relâchés. Les deux dernières comparutions immédiates ont eu lieu vendredi, et les deux personnes. Donc il y avait deux personnes qui ont demandé le report du procès. Oula.
Le micro tombe.
Deux personnes qui ont demandé un report de procès et qui l'ont obtenu et qui n'ont eu aucun contrôle judiciaire, ni bracelet, ni pointage, ni rien, ni détention provisoire. En attendant, leur procès est reporté pour fin octobre, le 28. Et du coup, j'espère qu'ils vont s'en sortir sans rien, mais c'est déjà très bien, que c'est plutôt un bon signe qu'il n'y ait pas de CJ pour ces deux-là. Du coup, on le rappelle, hein, on conseille toujours de, si possible, refuser la comparution immédiate pour mieux préparer sa défense. Évidemment, ça demande d'avoir des garanties de représentation qui permettent d'éviter d'aller en détention provisoire.
De suite.
On fera peut-être, au cours de ce mouvement social, on fera peut-être un point, un tirep pour expliquer tout ça. Mais là, on ne voulait pas trop s'étendre sur ça.
Sur Marseille, ils sont bien sortis.
Ouais, juste se réjouir du fait qu'ils sont sortis à Marseille.
Par contre, sur Lyon et Caen, il y a eu des peines fermes. Donc, une personne qui a lancé des pierres sur les policiers, comme beaucoup ont fait dans la manif. Il n'y a pas eu que lui, il n'y a pas eu que un. Effectivement, ils l'ont attrapé et ils ont mis 4 mois fermes. et d'autres personnes à Caen également qui ont eu
à Lyon,
qui a eu des gardes à vue et
4 personnes qui ont pris du ferme à Lyon.
Qui a eu aussi du ferme. Donc on a eu moins de chance qu'à Marseille. Voilà, on espère qu'ils pourront s'en sortir, faire appel. Mmh.
Ça, voilà. C'est les premiers résultats qu'on a trouvés. Peut-être qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas vus. Mais en tout cas, voilà, ça commence là. Il y a des personnes qui sont dans du mouvement social qui commencent à se retrouver en prison. Bah, grosse force à vous. Et
on continuera
un minimum, mais il ne faut pas que ça nous arrête.
Ça ne nous arrêtera pas.
Et en vrai, c'est un peu ce que... c'est intéressant les mouvements sociaux en termes anticarcéraux parce que la justice au quotidien elle touche des personnes qui sont en galère, qui sont pauvres, qui n'ont pas eu beaucoup le choix que de passer par la délinquance et pendant les mouvements sociaux elles touchent un peu où elles peuvent s'élargir à d'autres profils même si il y a aussi des personnes pauvres en galère qui font partie des mouvements sociaux mais
voilà, les moyennes classes sont beaucoup.
Ça s'élargit un petit peu et du coup nous dans nos discours politiques la prison elle devient présente pendant les mouvements sociaux, enfin il me semble que c'est le moment où on peut faire le lien, où on peut se dire la justice elle doit pas être utilisée contre les mouvements sociaux mais si on réfléchit un petit peu elle doit pas être utilisée du tout tout simplement,
voilà quoi, c'est une manifestation, tout le monde a le droit de manifester. Voilà.
Et du coup,
ça devrait être un droit et non pas profiter de faire des peines ou des gardes à vue comme les CRS.
Oui, pour dégoûter les personnes.
Qui se prennent au-delà des. Voilà, le plaisir de prendre un garde à vue, le plaisir de dire que celui-là, il va être jugé en corruption immédiate et que ça va faire du ferme et ça va remplir encore les prisons. Plus qu'autre chose. Et donc, c'est.
Parce que là, l'État il se défend lui-même, il défend l'État, il défend l'économie capitaliste. Il faut que ça tourne, du coup, il nous empêche de bloquer, il nous empêche de que le mouvement social prenne, du coup, il enferme des personnes. Donc, évidemment, ces personnes sont des prisonnières politiques, mais on peut se dire que les personnes qui sont en prison parce qu'elles sont pauvres, il y a aussi des aspects politiques, un enjeu de réflexion de société à avoir autour de ça, autour de la punition. Dans l'absolu et aussi de l'usage qu'en fait l'État et la classe bourgeoise pour ses intérêts. Et ça, ça va être fait cette semaine par le collectif Dire Espoir et Solidarité, puisque le 18 septembre, il y a un événement prévu et ce sera l'occasion de faire le lien entre les deux, parce que, bon, pour rappel, le collectif Dire Espoir et Solidarité, c'est un collectif qui se bat pour l'abolition du mitard et contre les personnes qui meurent en prison. Peut-être je peux vite fait dire la présentation que j'ai sous les yeux pour expliquer. Du coup, il y a 5 ans, Edir Méderes est mort dans sa cellule, dans des circonstances plus que douteuses. Depuis ce jour, sa mère et le collectif Dire Espoir et Solidarité se battent pour obtenir la vérité. Le 24 juin dernier, un non-lieu a été prononcé, affirmant encore une fois la mauvaise foi et l'impunité du système pénitentiaire. Soyons nombreux et nombreuses pour soutenir ce combat et réclamer justice et vérité. Du coup, il est mort au mitard. C'est pas le seul, hein, ça arrive qu'en prison, il y a des personnes qui meurent.
Il y a encore eu Rachid à Arles, qu'on ne sait pas la vérité, encore.
Souvent, les circonstances sont floues. Souvent, la paix va essayer de faire passer ça pour des suicides ou pas se prononcer. Et nous, on le sait.
Beaucoup fait passer pour des suicides, mais c'est pas des suicides. Hein, parce que quand ils disent à chaque fois on a intervenu très rapidement, excusez-moi, mais ils n'interviennent pas rapidement du tout. Surtout le soir, ils ne regardent même plus. Il y a des tournées où ils ne regardent même pas. Donc. Oui. Voilà, je pense que c'est ça qui s'est passé pour Rachid.
Voilà. Les suicides, ça existe aussi en prison. Hein.
Ils sont avec la famille, ceux qui ont la famille. Il y a plutôt des faits dits suicides que non, ce n'est pas des suicides.
Dans tous les cas, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Dans tous les cas, c'est la prison qui tue.
C'est la prison qui tue. C'est plutôt la pénitentiaire qui tue et qui ne sont jamais jugés, ces gens-là.
Bah, que ce soit parce que la prison te pousse au suicide ou parce que c'est les matons qui te tuent et qui te poussent au suicide, on peut jamais savoir. Mais dans tous les cas, c'est la faute de la prison. De toute façon, c'est toujours la faute de la prison.
Donc, dans la prison, il y a une directrice et un directeur, donc c'est votre responsabilité.
Bon, mais du coup, on disait, Idir est mort dans cette circonstance. Sa famille se bat pour que la justice reconnaisse qu'il a été tué par des matons. Et du coup, ce qu'il vient de dire, c'est que le 24 juin dernier, il y a un non-lieu qui a été prononcé. Donc ça, c'était... il est mort en 2020. La maison d'arrêt de Corba a annoncé un suicide par pendaison avant toute investigation technique. La famille n'y croit pas, et loin d'un simple doute, bon nombre d'incohérences qu'a porté Najed Kouaki, donc la mère d'Idir, ils l'ont amené à porter plainte pour meurtre. Donc 5 ans plus tard, maintenant, le non-lieu est tombé et la justice ne le reconnaît pas, mais le combat continue. Et du coup, il y a un appel, donc c'est à Lyon, hein. Nos auditeurs marseillais et marseillaises ne pourront peut-être pas y aller, à moins qu'ils soient très motivés pour monter à Lyon pour l'occasion. Mais il y en a un appel pour le 18 septembre, donc le même jour que le jour de la grève générale, à la Bourse du Travail, de faire une conférence de presse pour la qui s'appelle « Mort d'Idir, 5 ans après, quelles avancées juridiques ?» en présence d'avocats, de collectifs. Et puis le 20 septembre, à 15h, il y aura une marche à Bellecour, bon à Lyon, et donc toute une manif, et puis des ateliers ensuite. Et de 19h à 23h, il y aura aussi d'autres ateliers, puis un open mic. Du coup voilà, bah, grosse force à Najet, la mère d'Idir, qui porte ce combat. Grosse force à eux.
Surtout à la maman.
Au vu de l'appel de faire un truc le 18 septembre devant la Bourse du Travail, j'ai l'impression que c'est une volonté de faire du lien avec le reste du mouvement social, et je pense que ça a particulièrement sa place et que c'est très pertinent. Donc gros soutien à tous les proches, à toutes les personnes qui ont connu Idir. Bon courage pour votre lutte. Grosse force à toutes les personnes qui ont des proches qui sont morts en prison dans des circonstances douteuses ou dans des circonstances pas douteuses. Grosse force quand même.
Voilà, pour ce courage à ces familles qui se combattent pour avoir la vérité. Juste avoir la vérité, hein, voilà quoi. Donc au moins un minimum. Et ça serait bien d'avoir les vérités, les témoignages. Et en tout cas, c'est triste d'en arriver là.
Il est 47, il nous reste un petit peu de temps, donc même si on l'a très bien introduit, peut-être je peux lire le communiqué de la maman d'Idir, et puis après on se laissera sur du son.
Sur du son, ouais.
Ça marche. Communiqué de la maman d'Idir. Je m'appelle Najet, et je suis la maman d'Idir Médérès, mort à 22 ans dans la prison de Lyon-Corba, au Mitard. Ce jour-là, le 9 septembre 2020, on m'a annoncé que mon fils s'était pendu dans sa cellule. On m'a dit que c'était un suicide. Et je verrai que son nom... on m'a dit que c'était un suicide. Mais je le dis, aujourd'hui, haut et fort, c'est faux. Ils ont volé sa vie. Ils ont maquillé ça en suicide. Et je verrai que son nom reste éternel. Un traitement inhumain dans une cellule sans eau ni lumière. Idir était isolé, au quartier disciplinaire, privé d'eau, de lumière, de dignité. Ils lui ont coupé l'eau et l'électricité. Il était contraint de boire dans les toilettes. Je l'ai vu à la morgue. Il portait des traces de coups, des hématomes. Idir aimait la vie, il avait des projets, il attendait sa sortie, il pensait à sa famille. 5 ans de combat, 3 juges, 0 vérité. Pendant 5 ans, j'ai vu 3 juges se succéder. Le premier juge avait commencé à enquêter sérieusement, il a été muté. La deuxième juge ne retrouvait même pas le dossier du début.
Comme par hasard.
Une fois retrouvée, elle a disparu pendant des mois. Un troisième juge a refusé tous les actes demandés par nos avocats. Reconstitution, expertise, audition. Le 24 juin 2025, cette même juge, de retour, a prononcé un non-lieu. Aucune vérité, aucune justice. Idir n'est pas un dossier, c'est mon fils. Idir avait 22 ans. Il voulait vivre, il mérite la dignité, pas l'abandon. Je refuse qu'il soit une victime de plus dans un système qui humilie, isole, détruit. Je demande la réouverture du dossier, une enquête indépendante, la vérité pour Idir et la fin de l'impunité carcérale. Je suis sa voix. Je ne me tairai jamais. Je suis une maman et je suis debout pour lui. Idir n'est pas un suicide. C'est un abandon, une maltraitance, un drame véritable, un drame évitable. Mobilisons-nous, parlons-en, exigeons la vérité. Et si jamais vous voulez les contacter, vous pouvez le faire à l'adresse idir-espoir-solidarité@proton.me. Si jamais vous avez internet, de l'intérieur. Peut-être qu'ils ont une adresse postale, mais je la connais pas.
Ouais. En tout cas, voilà, si vous voulez envoyer un mail de soutien, ça fera toujours de plaisir à cette famille, à cette maman. Voilà, qui se bat pour les combats et pour toutes les autres familles qui se bat également pour avoir la vérité aussi. Voilà, force et courage et force déjà à cette famille, en espérant qu'ils auront un jour la vérité. Mais dès qu'on commence à avoir un peu la vérité, hop, le juge disparaît, le dossier disparaît. Mais bon.
Peut-être pour les personnes qui étaient, qui sont pas forcément à l'intérieur et qui découvrent le sujet, le mitard et le quartier disciplinaire, c'est la même chose. Hein. Peut-être que c'était un peu flou dans... Je ne l'ai pas précisé, mais voilà.
De toute façon, le mitard et le QI et tout ça, il se passe beaucoup, non, beaucoup
le
de QD, choses.
Du coup.
Oui, du QD, il se passe beaucoup de choses, quoi. Et il devrait avoir des contrôles plus souvent pour les surveiller en pénitentiaire qui se défoulent sur les détenus, tout simplement.
J'ai l'impression que c'est un peu passé dans l'ensemble des mouvements de gauche en général, que la police tue. Voilà. Et c'est déjà bien qu'on ait acté et que ce soit un lieu commun, qu'on déteste tous les keufs. Et peut-être qu'on pourrait réfléchir à élargir ça aux violences carcérales aussi, pas que parler de violences policières, mais aussi de violences carcérales.
Carcérales.
La prison tue, les matons tuent.
Voilà.
Et ACAB, mais aussi crève la tôle.
Crève la tôle avec les matons au milieu, vraiment je le dis. Hein.
C'est clair.
On va continuer, on lance la leçon. Et on va vous laisser avec ce son et on vous redit à dimanche prochain.
À dimanche prochain, voilà, grosse force à toutes les personnes qui nous écoutent à l'intérieur.
Voilà. Force et courage à tout le monde, Arles, Beaumette, tout ce qui est enfermé, prison, clinique, tout ce qui se battent pour sa liberté. En tout cas, force et courage et on vous dit
après
à dimanche.
Après nous, sur le fil, ne quittez pas l'antenne.
Voilà.
Enfin, si je ne m'abuse, en tout cas, ils sont
Il y a une autre émission, juste derrière.
On se quitte sur... un son qui est un peu vieux, mais pourquoi pas, qui s'appelle La Banquise. Non, pardon, de l'album La Banquise, J'attends, de Gizmo.
Allez, bon son, bonne écoute et à dimanche prochain.
J'attends qui, j'attends quoi, j'attends lui, j'attends toi, j'attends le shit, j'attends Sky, ça s'enivre avant l'âge, on veut quitter la réalité, dans nos cités, la pénalité, exister dans la précarité, et on attend que les jours soient meilleurs, qu'ils vivent nos galères et que nos tours soient les leurs, et je me sens pas bien, quand je vois que m'amuser, boire, fumer, rapper, c'est mon gagne-pain, quand je pense que mon père a fait plomberie et manutention, j'aimerais pouvoir dire à mes gosses que je me suis battu dans le son, qu'il n'y a plus de tension, mais c'est pas le cas. J'attends que ça se calme, mais en vrai j'ai pas le time. Non, j'ai ma carrière à gérer, j'ai la matière, trouve une manière d'apprécier. Ou attends le prochain album. De toute façon, on attend tous quelque chose. J'attends, mais je sais même pas quoi. Je laisserai pas les dettes, ma voix. Enfermé en cabine, je me baise la voix. Passe me voir, y'a tout le temps. Tard le soir, on fout le boucan. J'attends, mais je sais même pas quoi. Je laisserai pas les dettes, ma voix. Enfermé en cabine, je me baise la voix. Passe me voir, y'a tout le temps. Tard le soir, on fout le boucan. Je connais les ambiances macabres. Cadavérique, si t'es une balance, casse-toi. Parle à Véric, pas de taf à la mairie. Aux ascétiques non plus. A tous ceux qui attendent, je casse dédié mon truc. A tous mes potos en lulcé. A ceux en HP qui attendent la mort en train de convulser. J'y pense constamment. Y'a celui qui attend sur le terrain, celui qui passe et qui compte l'argent. C'est les dures lois de la vie, alors sois pas naïf avant de te retrouver à dire putain, cette pull crame la mise. Et puis je garde la pisse dans un hall qui tombe en ruine. N'attends pas qu'on plombe en ville. Sois intelligent et casse-toi d'ici. Ou n'attends pas de te faire péter et ne parle pas de pipi. Les gens portent l'œil et ils attendent ta chute. Nous envoyer au trou, c'est le passe-temps de la juge. J'attends mais je sais même pas quoi. Je laisserai pas les dettes, ma voix. Enfermé en cabine, je me baise la voix. Passe me voir, y'a tout le temps. Tard le soir, on fout le boucan. J'attends mais je sais même pas quoi. Je laisserai pas les dettes, ma voix. Enfermé en cabine, je me baise la voix. Passe me voir, y'a tout le temps. Tard le soir, on fout le boucan.